Prvá časť testu – počúvanie. Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. Počas počúvania odpovedajte na otázky prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte inštrukcie a piktogramy, aby ste vedeli, na ktorý odpoveďový hárok máte vyznačovať svoje odpovede. Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom krížik. Vypočujete si prvú nahrávku. Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna z ponúkaných možností. Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 1 až 7. Teraz si vypočujte nahrávku.
On les appelle les self. Ces magasins en self-service, sans vendeur ni caissier, qui ont connu un certain développement au cours des dernières années. En Suisse, ils ont vu le jour dans les villages éloignés, dans les montagnes par exemple. Leur fonction est de proposer des produits à la vente. Désormais, les self arrivent aussi en ville et connaissent un développement très rapide. Depuis le début de l'année, la ville de Bulle a son magasin sans personnel sur une surface de 70 mètres carrés. On y trouve de la viande, du pain, du fromage, des légumes 7 jours sur 7, de 5 heures du matin à minuit. Pour l'épicier Clément Castellas, ce self, c'est l'alternative locale qui manquait. Nous l'avons rencontré.
On a remarqué qu'une certaine population, les clients du soir, allaient toujours à la gare ou dans les stations-service, pour faire leurs courses d'urgence. Ils n'avaient donc pas la possibilité de consommer local. Nous, commerçants, nous devions trouver une alternative pour satisfaire justement cette population. Et dans notre self, on remarque que c'est vraiment le soir qu'il y a du monde.
Comment ça fonctionne ?
On s'inscrit d'abord en laissant son nom, son numéro de carte d'identité et son numéro de téléphone. C'est gratuit. Pour ouvrir la porte, on a juste à montrer un QR code enregistré dans le téléphone portable après l'inscription. Les caisses sont classiques. Vous scannez le code barre et vous payez par carte ou en espèces.
Vous n'avez pas peur de laisser sans surveillance tous ces produits ?
On s'est posé la question du vol. On a des caméras. On a le numéro de téléphone quand les gens rentrent. Après, on est dans une petite ville. On tient à avoir une approche positive. On n'a pas de raison de penser que les gens sont malhonnêtes. plein d'amis nous ont dit « Vous êtes fous de laisser comme ça les choses !» Mais pour l'instant, ça se passe bien. Et si on ne le fait pas à Bulle, on le fait où ?
Vous n'avez pas l'impression de dévaloriser la profession de vendeur ? De jouer le jeu des grandes surfaces avec leurs caisses automatiques et un service qui est de plus en plus anonyme ?
Je trouve qu'on fait le plus beau métier du monde. Pour moi, le self doit avoir une âme. Il doit ressembler au commerçant, sinon ce serait vraiment comme un site web. Ici, il y a un toboggan, des jeux pour les enfants, beaucoup de fleurs, de plantes, de couleurs. La clientèle est là, mais on doit aller à sa rencontre et changer notre façon de travailler. Donc par exemple, venir le soir ou le week-end pour communiquer avec les clients.
Ailleurs, certains clients refusent les caisses automatiques pour soutenir l'emploi. Or là, ces magasins fonctionnent uniquement parce qu'il n'y a pas de personnel.
Oui, ce sont des dépenses en moins. Mais il y a quand même des livreurs, des gens qui doivent ranger le magasin, faire le ménage. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas fixer nous-mêmes les tarifs des produits comme on veut. On ne gagne donc pas beaucoup.
Vos clients ont-ils parfois des avis négatifs ?
Ils ont tendance à mettre en avant les avantages, qui sont nombreux. Mais certains clients disent qu'ils ont un peu peur de faire une erreur au moment de scanner les articles, d'oublier un article au fond du sac et d'être accusé d'avoir volé quelque chose.
Teraz si vypočujte nahrávku ešte raz.
On les appelle les self. Ces magasins en self-service, sans vendeur ni caissier, qui ont connu un certain développement au cours des dernières années. En Suisse, ils ont vu le jour dans les villages éloignés, dans les montagnes par exemple. Leur fonction est de proposer des produits à la vente. Désormais, les self arrivent aussi en ville et connaissent un développement très rapide. Depuis le début de l'année, la ville de Bulle a son magasin sans personnel sur une surface de 70 mètres carrés. On y trouve de la viande, du pain, du fromage, des légumes 7 jours sur 7, de 5 heures du matin à minuit. Pour l'épicier Clément Castellas, ce self, c'est l'alternative locale qui manquait. Nous l'avons rencontré.
On a remarqué qu'une certaine population, les clients du soir, allaient toujours à la gare ou dans les stations-service pour faire leurs courses d'urgence. Ils n'avaient donc pas la possibilité de consommer local. Nous, commerçants, nous devions trouver une alternative pour satisfaire justement cette population. Et dans notre self, on remarque que c'est vraiment le soir qu'il y a du monde.
Comment ça fonctionne ?
On s'inscrit d'abord en laissant son nom, son numéro de carte d'identité et son numéro de téléphone. C'est gratuit. Pour ouvrir la porte, on a juste à montrer un QR code enregistré dans le téléphone portable après l'inscription. Les caisses sont classiques. Vous scannez le code barre et vous payez par carte ou en espèces.
Vous n'avez pas peur de laisser sans surveillance tous ces produits ?
On s'est posé la question du vol. On a des caméras, on a le numéro de téléphone quand les gens rentrent. Après, on est dans une petite ville. On tient à avoir une approche positive. On n'a pas de raison de penser que les gens sont malhonnêtes. Plein d'amis nous ont dit « Vous êtes fous de laisser comme ça les choses !» Mais pour l'instant, ça se passe bien. Et si on ne le fait pas à Bulle, on le fait où ?
Vous n'avez pas l'impression de dévaloriser la profession de vendeur ? De jouer le jeu des grandes surfaces avec leurs caisses automatiques et un service qui est de plus en plus anonyme ?
Je trouve qu'on fait le plus beau métier du monde. Pour moi, le self doit avoir une âme. Il doit ressembler au commerçant, sinon ce serait vraiment comme un site web. Ici, il y a un toboggan, des jeux pour les enfants, beaucoup de fleurs, de plantes, de couleurs. La clientèle est là, mais on doit aller à sa rencontre et changer notre façon de travailler. Donc par exemple, venir le soir ou le week-end pour communiquer avec les clients.
Ailleurs, certains clients refusent les caisses automatiques pour soutenir l'emploi. Or là, ces magasins fonctionnent uniquement parce qu'il n'y a pas de personnel.
Oui, ce sont des dépenses en moins. Mais il y a quand même des livreurs, des gens qui doivent ranger le magasin, faire le ménage. il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas fixer nous-mêmes les tarifs des produits comme on veut. On ne gagne donc pas beaucoup.
Vos clients ont-ils parfois des avis négatifs ?
Ils ont tendance à mettre en avant les avantages, qui sont nombreux. Mais certains clients disent qu'ils ont un peu peur de faire une erreur au moment de scanner les articles, d'oublier un article au fond du sac et d'être accusé d'avoir volé quelque chose.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 1 až 7. Vypočujete si druhú nahrávku. Na základe vypočutého rozhodnite o každom z tvrdení 8 až 13, či je pravdivé, A, nepravdivé, B, alebo z nahrávky nevyplýva, C. Svoje odpovede vyznačte na odpovedovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 8 až 13. Teraz si vypočujte nahrávku.
C'est un marché où les clients paient selon leurs moyens. Le marché du lavoir à Dieulefi, un petit village dans le sud-est de la France, essaie de rendre accessible à tous des produits locaux et de qualité. Comme tous les mercredis après-midi, un groupe de producteurs s'installe pour vendre leurs produits au marché. Les clients arrivent avant même l'ouverture à 17h. Et quand ils passent à la caisse, ça ne se passe pas tout à fait comme d'habitude. Chaque client montre une carte de couleur, bleue, blanche ou rouge, qui correspond à un prix différent pour les mêmes produits. Mathieu, initiateur du projet, nous explique le principe.
On a fait un prix bleu à 65% du tarif producteur.
et un prix rouge à 125% du prix producteur. Par exemple, les bottes de carottes sont à 2,50€ en prix producteur. C'est le prix qu'on appelle le prix blanc et qu'il me faut pour couvrir mes coûts et me payer de manière correcte, donc pour vivre. Avec le prix bleu à 65%, elle passe à 1,65€. Et avec le prix rouge à 125%, elle passe à 3,15€. Aujourd'hui, le marché est presque à l'équilibre parce que les prix solidaires compensent les prix accessibles.
Chacun paye donc selon ses moyens. Lors de l'arrivée en caisse, le client est accueilli par les producteurs eux-mêmes et paie le prix correspondant à la couleur bleue, blanche ou rouge de leur carte, obtenue sans document officiel. Les 8 producteurs locaux qui proposent des fruits et des légumes, du pain, des œufs, du miel, du fromage ou de la viande, sont payés selon leur tarif qui, lui, ne change pas. Écoutons ce monsieur qui vient pour la première fois. Avec sa carte bleue, il pourra bénéficier du tarif le plus bas.
C'est un super principe. Moi, je ne peux plus travailler depuis mon accident. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Ceux qui sont pauvres payent moins cher, les autres payent normalement et ceux qui sont riches, je pense que ça ne doit pas les déranger de payer un peu plus.
Payer un peu plus, c'est le cas de cet autre client qui, lui, est au tarif solidaire. Selon lui, tout le monde devrait pouvoir bien manger. Le marché compte une 60aine d'inscrits. Il est installé depuis 2 ans en périphérie de la commune, dans un quartier socialement mixte.
Oui, je supportais mal d'être dans la position du producteur bio qui propose ses produits à des gens aisés. Mon objectif, c'est de proposer la même chose dans un même endroit, quelle que soit la classe sociale. Acheter sa nourriture, ce n'est pas un acte gratuit, c'est un acte qui a du sens. Acheter bio pour des questions de santé, par exemple, c'est pas mal, c'est une première étape, mais ce n'est pas suffisant. Plus largement, il faut dépasser le cadre individuel et faire de l'alimentation une question de société. Parce que si les prix augmentent encore à cause de l'inflation, je refuse que les gens qui ont plus d'argent puissent continuer à se nourrir correctement alors que les gens qui n'ont pas de moyens se nourrissent de plus en plus mal. Les agriculteurs seraient les premiers à souffrir de la situation, puisqu'il y aurait de moins en moins de gens qui pourraient acheter leurs produits.
Teraz si vypočujte nahrávku ešte raz.
C'est un marché où les clients paient selon leurs moyens. Le marché du lavoir à Dieulefy, un petit village dans le sud-est de la France, essaie de rendre accessible à tous des produits locaux et de qualité. Comme tous les mercredis après-midi, un groupe de producteurs s'installe pour vendre leurs produits au marché. Les clients arrivent avant même l'ouverture à 17h et quand ils passent à la caisse, ça ne se passe pas tout à fait comme d'habitude. Chaque client montre une carte de couleur, bleue, blanche ou rouge, qui correspond à un prix différent pour les mêmes produits. Mathieu, initiateur du projet, nous explique le principe.
On a fait un prix bleu à 65% du tarif producteur et un prix rouge à 125% du prix producteur. Par exemple, les bottes de carottes sont à 2,50€ en prix producteur. C'est le prix qu'on appelle le prix blanc et qu'il me faut pour couvrir mes coûts et me payer de manière correcte, donc pour vivre. Avec le prix bleu à 65%, elle passe à 1,65€. Et avec le prix rouge à 125%, elle passe à 3,15€. Aujourd'hui, le marché est presque à l'équilibre parce que les prix solidaires compensent les prix accessibles.
Chacun paye donc selon ses moyens. Lors de l'arrivée en caisse, le client est accueilli par les producteurs eux-mêmes et paie le prix correspondant à la couleur bleue, blanche ou rouge de leur carte, obtenue sans document officiel. les 8 producteurs locaux qui proposent des fruits et des légumes, du pain, des œufs, du miel, du fromage ou de la viande, sont payés selon leur tarif qui, lui, ne change pas. Écoutons ce monsieur qui vient pour la première fois. Avec sa carte bleue, il pourra bénéficier du tarif le plus bas.
C'est un super principe. Moi, je ne peux plus travailler depuis mon accident. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Ceux qui sont pauvres payent moins cher, les autres payent normalement et ceux qui sont riches, je pense que ça ne doit pas les déranger de payer un peu plus.
Payer un peu plus, c'est le cas de cet autre client qui, lui, est au tarif solidaire. Selon lui, tout le monde devrait pouvoir bien manger. Le marché compte une 60aine d'inscrits. Il est installé depuis 2 ans en périphérie de la commune, dans un quartier socialement mixte.
Oui, je supportais mal d'être dans la position du producteur bio qui propose ses produits à des gens aisés. Mon objectif, c'est de proposer la même chose dans un même endroit, quelle que soit la classe sociale. Acheter sa nourriture, ce n'est pas un acte gratuit, c'est un acte qui a du sens. Acheter bio pour des questions de santé, par exemple, c'est pas mal, c'est une première étape, mais ce n'est pas suffisant. Plus largement, il faut dépasser le cadre individuel et faire de l'alimentation une question de société. Parce que si les prix augmentent encore à cause de l'inflation, je refuse que les gens qui ont plus d'argent puissent continuer à se nourrir correctement alors que les gens qui n'ont pas de moyens se nourrissent de plus en plus mal. Les agriculteurs seraient les premiers à souffrir de la situation, puisqu'il y aurait de moins en moins de gens qui pourraient acheter leurs produits.
Teraz máte ešte 1 minútu na dokončenie práce na úlohách 8 až 13. Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom pero. Vypočujete si 3. nahrávku. V nasledujúcom texte, ktorý predstavuje zhrnutie vypočutého, doplňte chýbajúce slová 14 až 20 v správnom tvare. Doplňte vždy iba jedno slovo. Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom pero. Teraz máte 2 minúty na prečítanie textu s chýbajúcimi slovami 14 až 20. Teraz si vypočujte nahrávku.
On connaissait les influenceurs sur les réseaux sociaux. Vous savez, ces personnes qui essaient de vous vendre des produits de mauvaise qualité dont vous n'avez pas besoin. Eh bien voilà qu'ils veulent nous désinfluencer, c'est-à-dire nous dire ce qu'il ne faut pas acheter. Décodage de ce phénomène avec Miruna Coca-Cosma.
Je suis là pour vous désinfluencer, dit une TikTokeuse. 177 millions de vues pour ce hashtag de-influencing qui invite les gens à réfléchir avant de faire des achats inutiles et coûteux. En effet, de plus en plus de TikTokers ou YouTubeurs prennent la parole non pas pour vous faire la publicité du dernier pantalon à la mode, mais pour vous expliquer pourquoi ces produits qui font le buzz sont en fait assez nuls, voire carrément inutiles. On est face à une nouvelle forme d'influence qui vient interroger la place de la consommation et de la publicité dans nos vies. Ce micro-phénomène s'inscrit davantage dans les réflexions qui entourent la consommation responsable. On pense forcément au scandale des placements de produits, dont on parle énormément de nos jours. En clair, désinfluencer, ce n'est pas juste attaquer des marques, c'est aussi lutter contre la surconsommation et les dépenses inutiles. Car non, vous n'avez absolument pas besoin de cette chose dont vous ignoriez complètement l'existence il y a à peine 30 secondes.
Pour les spécialistes, ce signal faible sur TikTok permet à la génération Z de montrer son pouvoir et d'affirmer son souhait d'une société basée sur une éthique de la simplicité.
On n'a jamais eu autant de produits cosmétiques à destination de cette génération. Mais d'un autre côté, il y a une prise de conscience liée à l'angoisse écologique. Bien sûr, on peut rester sceptique par rapport à cette tendance. Ces désinfluenceurs sont beaucoup et suivis, c'est vrai, mais est-ce qu'ils pourront sauver le monde à eux seuls? Ça paraît compliqué, surtout que beaucoup utilisent les mêmes méthodes que les influenceurs en proposant parfois des imitations moins chères que les produits qu'ils critiquent. Et quand un influenceur critique des produits, ses avis positifs ont forcément plus d'impact sur son public et donc sont potentiellement plus intéressants pour des marques. Au final, on déconseille un produit pour en conseiller un autre. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les désinfluenceurs sont juste des influenceurs un peu différents?
Teraz si vypočujte nahrávku ešte raz.
On connaissait les influenceurs sur les réseaux sociaux. Vous savez, ces personnes qui essaient de vous vendre des produits de mauvaise qualité dont vous n'avez pas besoin. Eh bien voilà qu'ils veulent nous désinfluencer, c'est-à-dire nous dire ce qu'il ne faut pas acheter. Décodage de ce phénomène avec Miruna Coca-Cosma.
Je suis là pour vous désinfluencer, dit une TikTokeuse. 177 millions de vues pour ce hashtag de-influencing qui invite les gens à réfléchir avant de faire des achats inutiles et coûteux. En effet, de plus en plus de TikTokers ou YouTubeurs prennent la parole non pas pour vous faire la publicité du dernier pantalon à la mode, mais pour vous expliquer pourquoi ces produits qui font le buzz sont en fait assez nuls, voire carrément inutiles. On est face à une nouvelle forme d'influence qui vient interroger la place de la consommation et de la publicité dans nos vies. Ce micro-phénomène s'inscrit davantage dans les réflexions qui entourent la consommation responsable. On pense forcément au scandale des placements de produits, dont on parle énormément de nos jours. En clair, désinfluencer, ce n'est pas juste attaquer des marques, c'est aussi lutter contre la surconsommation et les dépenses inutiles. Car non, vous n'avez absolument pas besoin de cette chose dont vous ignoriez complètement l'existence il y a à peine 30 secondes.
Pour les spécialistes, ce signal faible sur TikTok permet à la génération Z de montrer son pouvoir et d'affirmer son souhait d'une société basée sur une éthique de la simplicité.
On n'a jamais eu autant de produits cosmétiques à destination de cette génération. Mais d'un autre côté, il y a une prise de conscience liée à l'angoisse écologique. Bien sûr, on peut rester sceptique par rapport à cette tendance. Ces désinfluenceurs sont beaucoup et suivis, c'est vrai, mais est-ce qu'ils pourront sauver le monde à eux seuls? Ça paraît compliqué, surtout que beaucoup utilisent les mêmes méthodes que les influenceurs en proposant parfois des imitations moins chères que les produits qu'ils critiquent. Et quand un influenceur critique des produits, ses avis positifs ont forcément plus d'impact sur son public et donc sont potentiellement plus intéressants pour des marques. Au final, on déconseille un produit pour en conseiller un autre. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les désinfluenceurs sont juste des influenceurs un peu différents?
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 14 až 20. Ukončite prosím prácu na tejto časti testu. Pokračujte prosím v práci na ďalších častiach testu.